France Inter.
Ça continue de débattre sur le plateau de questions politiques. Vous retrouvez Éric Delvaux pour le journal. Bonjour Éric.
Et on va faire attention. Bonjour Karine, ma chère Karine, et bonjour à tous. À la une de ce 13h. Le début officiel du pontificat de Léon XIV ce matin. Il a célébré à Rome la messe solennelle d'inauguration en présence de chefs d'État étrangers et de têtes couronnées. Le pape a d'ailleurs prévu de recevoir Volodymyr Zelensky dans la journée. Nous serons en direct de Rome. Nous irons également en Roumanie qui pourrait voir ce soir l'extrême droite arriver au pouvoir, second tour de l'élection présidentielle. En France, Gérald Darmanin veut une troisième prison ultra sécurisée. En Guyane cette fois, à Saint-Laurent-du-Maroni, la Guyane est une porte d'entrée du trafic de drogue en France. À Marseille, nous irons visiter une exposition sur l'histoire du tatouage en Méditerranée. Tatouage selon les époques et selon les cultures. Visite guidée avec Mathilde Vincenneux. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin pour s'essayer au beer pong. C'est un jeu, faire rebondir une petite balle pour qu'elle finisse par atterrir dans les gobelets de l'adversaire. Eh bien, il y a en ce moment un engouement des Français pour le beer pong.
Moi, je suis informaticien, je suis toute la journée devant l'ordinateur. Là, ça crée une relation humaine et c'est ça qui est bien dans ce genre d'événement.
Et en France, on le fait surtout sans alcool. Et puis le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, promesse de soleil cet après-midi.
Oui, plein soleil et ça quasiment partout. Il reste juste quelques nuages bas qui traînent un petit peu encore sur la pointe nord.
Vos prévisions complètes, ce sera dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
10 jours après son élection, donc, Léon XIV a officiellement débuté son pontificat ce matin en célébrant la messe dite messe solennelle d'inauguration, une liturgie rituelle, beaucoup de symboles. La place Saint-Pierre de Rome, une nouvelle fois, comble, en présence également de chefs d'État et de têtes couronnées. On va y revenir. Bruno Duvic, vous êtes en direct de Rome. L'une des images fortes de la matinée, c'est sur la place, le premier bain de foule de Léon XIV, debout dans sa papa mobile.
Oui, c'est l'image entre toutes qui symbolise le passage de relais. Il y a un mois, un François à bout de force faisait un dernier tour assis dans cette voiture à la veille de sa mort. Ce matin, sur la Jeep blanche sans vitre de protection, c'est un pape debout, souriant, qui a profité une vingtaine de minutes de ce bain de foule. Témoignage d'un fidèle italien.
C'est une émotion unique. Je suis avec une cinquantaine d'écoliers de la région de Padoue. Ils sont très heureux. C'est un moment unique.
Puis la cérémonie sur le parvis de la basilique. On remet ses attributs au pape, le pallium, cette étoffe de laine de brebis qui fait de lui le pasteur du troupeau et la bague qui autrefois servait à cacheter les documents officiels et qui a désormais une valeur symbolique. L'homélie, l'église d'Iléon XIV doit être un exemple d'unité dans un monde qui se défait.
À notre époque, nous voyons encore trop de discorde, trop de blessures causées par la haine, par un paradigme économique qui exploite les ressources de la terre et marginalise les plus pauvres. Et nous voulons être un petit levain d'unité, de communion, de fraternité.
L'humilité du pape aussi, j'ai été choisi sans aucun mérite, dit Léon XIV lors de l'homélie, et avec crainte et tremblement, je viens à vous comme un frère.
Et sur le plan diplomatique, Bruno, dans la journée, Léon XIV a prévu de recevoir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Oui, il était parmi les dizaines de dirigeants présents à cette messe. C'est un geste de plus du nouveau pape en direction de l'Ukraine, alors que son prédécesseur François a souvent été accusé de ne pas prendre clairement parti dans ce conflit. Dimanche dernier, Léon XIV disait avoir dans son cœur le peuple ukrainien. Il appelait à une paix juste. Il a déjà eu Zelensky au téléphone et proposé ses services de médiateur dans les conflits en cours. Celui-ci est manifestement prioritaire à ses yeux.
C'était Bruno Duvic, en direct de Rome avec les moyens techniques de Jérémy Thuille. Ce matin et ce dimanche, deux Roumanies s'affrontent dans les urnes. L'une souhaite continuer sur le chemin pro-européen, entamé il y a 35 ans, et l'autre, d'extrême droite, traditionnaliste, souverainiste, voire complotiste. Elle est emmenée par George Simion. Second tour donc de l'élection présidentielle en Roumanie, 6 mois après l'annulation d'un premier scrutin, pour cause d'ingérence russe sur TikTok. À l'époque, un inconnu était arrivé en tête, Calin Georgescu. Virginie Pironon, vous êtes en duplex de Roumanie et vous avez rencontré ce matin des partisans de Georges Simion venus le soutenir dans son bureau de vote.
Et parmi ces partisans,
le Christ est ressuscité.
Beaucoup affichent leur appartenance à la religion orthodoxe. C'est le cas de Luciane, 47 ans, écharpe aux couleurs de la Roumanie autour du cou qui brandit une croix orthodoxe Pour lui, religion et politique ne font qu'un.
Oui, c'est un nouveau courant contre cette politique corrompue, soumise à des forces mondiales occultes et sataniques. Cette politique va prendre fin. Et ce nouveau mouvement, avec des gens croyants, avec une morale, des gens qui aiment la famille, tous veulent que la Roumanie fleurisse et devienne un paradis.
Avec ses fossiles, cheveux noirs, Loredana, 36 ans, est tiktokeuse, 100 000 abonnés. Depuis l'annulation du scrutin de novembre dernier, la jeune femme est de toutes les manifestations.
Là. Continue sa postes.
Oui, je continue mes posts sur TikTok. Je suis venue voter pour M. Simeone, notre président. C'est pour ça que je suis là. Et j'invite tout le monde aujourd'hui à aller voter. Comme tous les partisans de George Simeone, la jeune femme ne veut même pas envisager une défaite ce soir. Parmi les fausses nouvelles qu'elle relaie sur son compte TikTok, le fait que le pro-européen Nicu Jordan, maire de Bucarest, souhaite fermer les églises pour les reconvertir en salons pour de l'événementiel.
Reportage de Virginie Pironon en Roumanie avec Michael Simon. Les Polonais votent également aujourd'hui, mais pour un premier tour de la présidentielle, un scrutin qui sera décisif pour l'avenir du gouvernement pro-européen actuel, décisif aussi pour la loi sur l'avortement ou bien pour les droits des minorités sexuelles en Pologne. Jour d'élection également au Portugal, scrutin législatif cette fois pour la troisième fois en trois ans, élection qui pourrait permettre au Premier ministre sortant Luis Montenegro de renforcer sa faible majorité de droite modérée un an seulement après son arrivée au pouvoir. Depuis jeudi, Israël intensifie ses frappes sur la bande de Gaza. La nuit dernière encore, les bombardements israéliens ont fait au moins 33 morts. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem, RFI pour France Inter. Les négociations ont repris hier soir et il y a ce matin comme une inflexion d'Israël qui se dit désormais ouvert à un accord incluant la fin des combats.
Oui, c'est une première, Eric. Il s'agit d'un communiqué du bureau du Premier ministre israélien. L'équipe de négociation à Doha s'efforce d'épuiser toutes les possibilités d'accord, que ce soit dans le cadre du plan Witkoff ou bien dans le cadre d'une fin des combats qui inclurait la libération de tous les otages, l'exil des terroristes du Hamas et le désarmement de la bande de Gaza, peut-on lire dans ce texte. Alors, pas plus de précisions. Jusqu'à présent, Israël affirmait ne vouloir accepter que des changements mineurs et non substantiels. Le cabinet israélien de sécurité doit se réunir un peu plus tard cet après-midi pour entériner cette nouvelle approche et également pour autoriser l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. En tout cas, le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, dit par avance pas question de mettre un terme à la guerre.
Il faut revenir également, Michel, sur l'intensification des bombardements israéliens depuis jeudi. C'est bien le prélude à une prochaine offensive terrestre pour prendre le contrôle opérationnel de certaines parties du territoire palestinien.
Oui, Israël menace toujours de lancer cette offensive terrestre massive sur la bande de Gaza et à retenir, Eric, cet article du Sunday Times qui publie souvent des fuites des services de sécurité israéliens. Alors, selon ce journal britannique, l'armée israélienne envisage de diviser la bande de Gaza en trois zones distinctes, séparées par quatre corridors sous contrôle militaire israélien. En d'autres termes, la segmentation de l'enclave palestinienne, cela en cas d'échec des négociations.
Michel Paul, RFI pour France Inter, en direct de Jérusalem. Vladimir Poutine l'a redit ce matin à la télévision publique russe. Il veut éliminer les causes du conflit en Ukraine pour, dit-il, garantir la sécurité de la Russie. La nuit dernière, l'Ukraine a intercepté 88 drones russes parmi les 273 drones qui ont traversé l'espace aérien ukrainien. 273 drones, c'est un record.
France Inter. Le journal de 13h. Éric Delvaux.
En France, la suite du projet de loi sur la fin de vie, les députés ont adopté hier soir le principe d'un droit à l'aide à mourir. L'article adopté offre la possibilité à un patient, s'il est éligible au protocole, de mettre fin à ses jours par auto-injection ou bien par ingurgitation. Et s'il n'est pas en capacité de le faire lui-même, et seulement dans ce cas précis, la loi pourrait lui permettre de faire appel à un médecin. Bonjour Alice Cachanel.
Bonjour.
C'est donc le projet du gouvernement qui a été retenu. pour ménager une partie du corps médical opposée à l'évolution de la loi.
Oui, un modèle basé sur le suicide assisté. C'est ce que recommandait le comité consultatif d'éthique, l'Académie de médecine ou encore l'Ordre des médecins. D'après l'article adopté, les professionnels de santé effectueront le geste létal seulement dans des cas exceptionnels, vous l'avez dit. Un argument qui ne rassure pas pour autant cette infirmière en soins palliatifs, Jeanne Amouroux.
On se dit que ça restreint le nombre d'euthanasies effectivement qui pourraient être faites. En revanche, il demeure quand même un flou immense sur les critères d'accès, sur qui va être éligible à cette aide à mourir et sur la question de l'implication des soignants. On reste impliqué.
Des soignants impliqués, ils devront en effet rester à proximité pour s'assurer que le patient ne rencontre pas de problème. À l'opposé, Valérie Ménage, neurologue, aurait souhaité que le texte aille plus loin pour être autorisé à accompagner ses patients jusqu'au bout.
Ça va être terrible. Sur quels critères on va évaluer que la personne est en capacité physique de le faire ou non? Jusqu'où on va aller? Est-ce que quelqu'un qui n'a plus la capacité de bouger ses bras et à qui il faudra porter le verre jusqu'aux lèvres, c'est du suicide assisté ou on est déjà dans l'intervention d'un tiers? Donc il y a une incompréhension totale et une rupture dans ce qui fonde le respect de la volonté et puis par ailleurs dans la notion même d'accompagnement.
L'examen du texte se poursuit la semaine prochaine. Il y sera notamment question de la clause de conscience des professionnels de santé.
Et je précise qu'il reste 1774 amendements à étudier. Merci Alice Cachaner. C'est le dernier projet du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, en déplacement à Cayenne en ce moment. Eh bien, il veut ouvrir une nouvelle prison ultra sécurisée. Ce serait d'ailleurs la troisième. Et cette fois, en Guyane. Annonce faite dans le JDD ce matin. Une prison qui serait hors normes, 500 places, à Saint-Laurent-du-Maroni. Pour enfermer les criminels les plus dangereux, donc, une soixantaine de places seraient réservées aux narcotrafiquants, une quinzaine pour des détenus radicalisés islamistes et fichés S. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
La Guyane n'a pas été choisie au hasard. Hein. Elle possède le premier taux d'homicide en France et c'est l'une des portes d'entrée de la drogue sur le territoire. C'est donc un point stratégique de la lutte contre le narcotrafic.
Oui, cette prison doit être un verrou dans la guerre contre le narcotrafic, déclare Gérald Darmanin au JDD. C'est vrai que la Guyane est un point majeur de départ de la drogue vers l'Europe, même si ces dernières années, les contrôles ont été renforcés à l'aéroport de Cayenne pour lutter contre le phénomène des mules. Les trafiquants privilégient désormais la voie maritime, le fret aérien ou bien contournent par les Antilles. Le projet de construire une nouvelle prison à l'entrée de Saint-Laurent-du-Maroni date de 2017. Elle figurait dans les accords signés entre l'État et le collectif pour que la Guyane décolle après 5 semaines de manifestations. Il s'agit aussi de soulager la prison actuelle située dans la banlieue de Cayenne et surpeuplée. Gérald Darmanin est donc en Guyane pour annoncer que le projet avance et le ministre y ajoute ce quartier de haute sécurité pour les narcotrafiquants. Ce sera le troisième après ceux de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais et de Condé-sur-Sarthe avec un régime très strict pour couper les détenus de l'extérieur. En Guyane, le permis de construire doit être bientôt signé. Ouverture prévue en 2028.
Sarah Guibaudot, service police-justice de France Inter. Je vous disais que la Guyane possède le premier taux d'homicide en France. Le deuxième département le plus concerné, c'est la Guadeloupe. Eh bien, au Gosier, en Guadeloupe, un homme a été tué par balle, un autre blessé après avoir été pris pour cible à la sortie d'un bar. En boxe, le poids lourd français Tony Yoka s'est imposé au point hier soir à Paris face au boxeur russe Arslan Yaliev. Tony Yoka met donc un terme à une série de 3 défaites consécutives. Le champion olympique 2016 relance sa carrière. Son contrat de 15 duels avec Canal+ se termine. Et cette victoire annonce donc le début d'une nouvelle page, François Ventéjou.
Sur le ring, Tony Yoka a vacillé mais n'a pas lâché pour retrouver le goût de la victoire.
Vainqueur et l'aventure se poursuit.
Tout n'a pas été parfait, mais les amateurs de boxe venus l'encourager, comme Lucha, trouvent Tony Yoka plus consistant.
Là, franchement, ce qui était bien, c'est qu'il a combattu. Il a combattu ce qu'il n'a pas fait sur les combats précédents. Il l'a fait ce soir. Et il s'est passé quelque chose.
S'il sort du combat, le visage marqué, il est surtout soulagé d'avoir battu un boxeur invaincu jusqu'ici.
Unité face à un très bon adversaire. Il ne faut pas cracher dessus. Attention, hein. Il est bon, le gars, je vous jure, il est bon. Le plus important aujourd'hui, c'est la victoire. Donc voilà, on va continuer à aller de l'avant.
À 33 ans, la suite de sa carrière va s'écrire en Angleterre, là où il s'entraîne. Pour sa prochaine sortie, il espère combattre à Wembley lors d'une grande soirée de boxe en juillet. Pour l'ancien champion du monde, Brahim Asloum, le Français est sur le bon chemin.
Un boxeur se fait un nom sur un nom. Donc lui, maintenant, Tony, il lui faut un nom. Là, il avait un boxeur avec un palmarès solide. Là, maintenant, il nous fait valoir un nom pour redorer son image au niveau international.
Ce nom devrait être le Britannique Joe Joyce, contre qui il avait gagné en finale des Jeux Olympiques en 2016.
François Ventejou, nous partons à Marseille pour une exposition qui explore la pratique du tatouage et spécifiquement le tatouage en Méditerranée, selon les époques, selon les cultures, tatouage religieux, tatouage politique, esthétique ou encore antique en Égypte, en Syrie et en Grèce, jusqu'à ceux d'aujourd'hui pour affirmer son identité marseillaise. Exposition tatouage avec des photos, des sculptures et des peintres. Visite guidée avec Mathilde Vinceneuve.
À travers les objets exposés, des vases, des figurines en provenance de toute la Méditerranée, on découvre sur des silhouettes antiques des marques qui laissent penser à des tatouages. Nicolas Miséry, directeur des musées de la ville de Marseille.
Alors les premières traces archéologiques nous laissent imaginer que le tatouage était d'abord le moyen de revendiquer une appartenance à une culture, à une famille, à une société. Et puis le tatouage a aussi, on le sait, été utilisé finalement comme le signe d'une affirmation religieuse, le moyen de prier en action.
La preuve, ce sont ces tampons qui servaient à tatouer les pèlerins sur les lieux saints en Italie ou à Jérusalem. Il y a aussi les tatouages sublimes sur les visages des femmes berbères, ceux des prisonniers et des marins, et ceux, plus actuels, des Marseillais, cette bonne mère sur une jambe, l'OM sur un bras, Nicolas Miséry.
C'est d'ailleurs très sensible à Marseille, une ville qui a une histoire très singulière du tatouage, où beaucoup de gens sont tatoués, et on en rend compte dans cette exposition. On proclame l'amour de sa ville. Mais c'est aussi un signe très politique qui dit à quel point eh bien, on peut revendiquer en soi l'expression de sa propre indépendance et de sa liberté.
Comme cette miscagole qui montre ses tatouages provocateurs, dans cette exposition, les femmes sont à l'honneur, tatouées ou tatoueuses, avec une salle dédiée à Monique, celle qui a ouvert le premier salon de tatouage à Marseille.
Tatouage, histoire de la Méditerranée, c'est donc au centre de la Vieille Charité à Marseille jusqu'au 28 septembre. À suivre, les bonnes Ondes de Sandrine Houdin, second épisode autour du beer pong. C'est un jeu venu des États-Unis. Il cartonne désormais en France. Il s'agit de faire rebondir une balle de ping-pong dans les gobelets de l'équipe adverse. Une sorte de jeu de soif répandu dans les soirées étudiantes, mais qui se joue en compétition sans alcool. Version sobre, la bière est remplacée par de l'eau ou du jus de fruits. Eh bien, ça ne casse même pas l'ambiance.
3, 2, 1, c'est parti!
Les alcoolites contre les cirrhoses, les apérologues contre les saucifions, cette restauratrice totalement conquise nous présente la discipline.
Donc c'est la bière pong. Alors, on a une pyramide de gobelets.
Là-bas.
Exactement. Donc on a le même tableau des deux côtés pour que les adversaires ils aient le même tableau de notre côté. Horrible mon explication. Et donc le but du jeu, ça va être de lancer une balle qui va atterrir dans un gobelet, ce qui fait marquer des points. Bon, là, je ne l'ai pas mise.
Lui non plus.
J'ai perdu, là. Tout le monde se marre.
Ah bah oui, c'est incroyable ici. Ah ouais, première fois que je viens, je pense que ça va être bien.
On a tout fait tomber. Que ça tombe bien à l'intérieur, c'est assez compliqué, en vrai.
Et vous, monsieur?
C'est la deuxième fois, troisième fois que je joue. Ce qui est dur, c'est de bien viser. C'est la bureau! Hey!
On a l'impression que vous êtes des gamins tous là.
Ouais, mais c'est ça. Ça nous dégage un peu, ça nous enlève un peu tout ce qui est réseaux sociaux, téléphone, ordinateur. Moi je suis informaticien, je suis toute la journée devant l'ordinateur. Là ça crée une relation humaine, ça fait du bien. J'ai 32 ans mais j'ai envie de jouer ce genre de jeu. Ça fait trop plaisir de voir des gens de toute mentalité. Il y a des jeunes, je suis tunisien, il est marocain, c'est des français. Et c'est ça qui est bien dans ce genre d'événement.
Louis et Romain n'en ratent pas un. Ils sont champions de beer pong et voici leurs conseils.
À ne pas faire déjà, être de mauvaise humeur.
Ne pas faire la gueule.
Ne pas faire la gueule, c'est ça.
Et deuxième conseil, une de leurs tactiques.
En fait, Romain va lancer sa balle dans les verres d'en face. Et moi, en même temps, ce que j'aime bien faire, au moment où il regarde la balle de Romain dans les airs, moi, j'ai fait un rebond. Et si la balle, du coup, rentre du rebond, ça va enlever deux verres en face. Et si la balle de Romain rentre, ça fera un verre. Donc au mieux, on peut enlever trois verres sur un lancer. On peut jouer en même temps, on a le droit.
Qui sont les plus forts en fait?
Les Belges sont très bons et sinon les Américains sont très bons.
Et nous ?
Il y a de plus en plus d'engouement. Il y a 2 ans au championnat de France, on était 66 équipes. Cette année, on était 234. Donc ouais, ça commence à bien marcher parce qu'en fait, c'est un jeu qui peut rassembler un peu les gens en soirée. Et quand on sait pas trop quoi faire d'une soirée et qu'on s'emmerde ou qu'on s'ennuie, bah, faire un petit beer pong, ça, c'est toujours agréable.
Le beer pong, donc, dans les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Le temps.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Eh bien cet après-midi sera calme et ensoleillé.
Oui, on a juste ces nuages bas qui sont un peu coriaces sur la pointe nord. On pourrait aussi avoir des ondées très localisées sur le relief des Pyrénées-Orientales. Mais partout ailleurs, c'est du soleil. Soleil qui sera parfois un peu voilé sur le sud-ouest. Et ça, c'est parce qu'une perturbation va se mettre en place la nuit prochaine avec les premières averses orageuses au sud de la Garonne demain matin. Orages qui gagneront ensuite un grand quart sud-ouest jusqu'au Massif central. Des orages qui seront potentiellement fort, avec sûrement une vigilance qui sera mise en place demain matin. On surveille ça pour vous.
Et des températures en hausse.
Oui, surtout sur la moitié sud. La moyenne ira cet après-midi de 24 à 28 degrés. Les valeurs les plus chaudes sont pour le sud-ouest. On aura en revanche du mal à dépasser les 20 degrés près de la Manche. Ça grimpera jusqu'à 22 degrés à Paris, 23 à Bourges et Strasbourg pour le reste de la moitié nord.
C'est Linda Costa.